Aristote, Métaphysique, livre 1er, chapitre 2. Or, puisque cette science est l'objet de nos recherches, nous allons avoir à examiner de quelles causes et de quels principes la philosophie et la science. Question qui s'éclaircira bien mieux si l'on examine les diverses idées que nous nous formons du philosophe. Et d'abord, nous concevons le philosophe surtout comme connaissant l'ensemble des choses, autant que cela est possible, mais sans avoir la science de chaque chose en particulier. Ensuite, celui qui peut arriver à la connaissance de choses ardues et que l'homme ne connaît qu'avec de grandes difficultés, ne le nommons-nous pas philosophe? En effet, connaître par les sens est une faculté commune à tous. Cette connaissance, acquise sans effort, n'a donc rien de philosophique. Enfin, celui qui a les notions les plus rigoureuses des causes et qui enseigne le mieux ces notions, celui-là est plus philosophe que tous les autres sur toute science. Et, parmi les sciences, celle à laquelle on s'applique pour elle-même et dans le seul but de savoir, est plus philosophie que celle qu'on étudie à cause de ses résultats. Et celle qui domine les autres est plus philosophie que celle qui est subordonnée à quelque autre. Il ne faut pas que le philosophe reçoive des lois, mais qu'il donne des lois. Il ne faut pas qu'il obéisse à un autre, c'est à celui qui est moins philosophe à lui obéir. Telles sont, en somme, nos diverses manières de concevoir la philosophie et les philosophes. Or, le philosophe qui possède parfaitement la science du général a nécessairement la science de toute chose, car un tel homme sait, en quelque sorte, tout ce qui se trouve compris sous le général. Mais on peut dire aussi qu'il est très difficile pour les hommes d'arriver aux connaissances les plus générales. En effet, leurs objets sont bien plus loin de la portée des sens. Entre toutes les sciences, les plus rigoureuses sont celles qui sont le plus sciences de principe. Celles qui roulent sur un petit nombre de principes sont plus rigoureuses que celles dont l'objet est multiple. L'arithmétique, par exemple, l'est plus que la géométrie. La science qui étudie les causes est celle qui peut le mieux enseigner, car cela enseigne qui disent les causes de chaque chose. Enfin, connaître et savoir dans le but unique de savoir et de connaître, tel est par excellence le caractère de la science de ce qu'il y a de plus scientifique. Celui qui veut étudier une science pour elle-même choisira entre toutes celle qui est le plus science. Or, cette science est la science de ce qu'il y a de plus scientifique. Ce qu'il y a de plus scientifique, ce sont les principes et les causes. C'est par leurs moyens, c'est par eux que nous connaissons les autres choses, et non point par les autres choses que nous les connaissons. Or, la science souveraine, la science supérieure à toute science subordonnée, est celle qui connaît pourquoi il faut faire chaque chose. Et ce pourquoi, c'est le bien de chaque être. Pris en général, c'est le mieux dans tout l'ensemble des êtres. De tout ce que nous venons de dire sur la science elle-même, sort la définition cherchée de la philosophie. Il faut bien qu'elle soit la science théorétique des premiers principes et des premières causes, car le bien et la raison finale sont une des causes, et qu'elle n'est point une science pratique, c'est ce que démontre l'exemple de ceux qui ont philosophé les premiers. Ce qui, dans l'origine, poussa les hommes aux premières recherches philosophiques, C'était, comme aujourd'hui, l'étonnement. Entre les objets qui les étonnaient et dont ils ne pouvaient se rendre compte, ils s'appliquèrent d'abord à ceux qui étaient à leur portée. Puis, s'avançant ainsi peu à peu, ils cherchèrent à s'expliquer de plus grands phénomènes. Par exemple, les divers états de la Lune, le cours du Soleil et des astres. Enfin, la formation de l'univers. Chercher une explication et s'étonner, c'est reconnaître qu'on ignore. Aussi peut-on dire que l'ami de la science l'est en quelque sorte des mythes, car le sujet des mythes, c'est le merveilleux. Par conséquent, si les premiers philosophes philosophèrent pour échapper à l'ignorance, il est évident qu'ils poursuivaient la science pour savoir, et non en vue de quelque utilité. Le fait lui-même en est la preuve. Presque tous les arts qui regardent les besoins et ceux qui s'appliquent au bien-être et au plaisir étaient connus déjà quand on commença à chercher les explications de ce genre. Il est donc évident que nous n'étudions la philosophie pour aucun autre intérêt étranger. De même que nous appelons homme libre, celui qui s'appartient et qui n'a pas de maître. De même aussi cette science, seule entre toutes les sciences, peut porter le nom de libre. Celle-là seule, en effet, ne dépend que d'elle-même. Aussi pourrait-on, à juste titre, regarder comme plus qu'humaine la possession de cette science. Car la nature de l'homme est esclave par tant de points que Dieu seul, pour parler comme Simonide, devrait jouir de ce beau privilège. Toutefois, il est indigne de l'homme de ne pas chercher la science à laquelle il peut atteindre. Si les poètes ont raison, si la divinité est capable de jalousie, c'est à l'occasion de la philosophie surtout que cette jalousie devrait naître. Et tous ceux qui s'élèvent par la pensée devraient être malheureux. Mais il n'est pas possible que la divinité soit jalouse, et les poètes, comme dit le proverbe, sont souvent menteurs. Enfin, il n'y a pas de science qu'on doive estimer plus qu'une telle science, car la plus divine est celle qu'on doit priser le plus. Or, celle-ci est seule divine à un double titre. En effet, la science qui est surtout le partage de Dieu et qui traite des choses divines est divine entre toutes les sciences. Or, la philosophie seule porte ce double caractère. Dieu passe pour la cause et le principe de toutes choses, et Dieu seul, Dieu surtout du moins, peut posséder une telle science. Toutes les autres sciences ont, il est vrai, plus de rapport à nos besoins que la philosophie, mais aucune ne l'emporte sur elle. Le but proposé à notre entreprise, ce doit être un étonnement contraire, si je puis dire, à celui qui provoque les premières recherches de toute science. Toujours en effet, les sciences ont, comme nous l'avons remarqué, leur source dans l'étonnement qu'inspire l'état des choses. Ainsi, pour parler des merveilles qui s'offrent à nous d'elles-mêmes, l'étonnement qu'inspire ou les révolutions du soleil ou l'incommensurabilité du rapport de la diagonale au côté du carré à ceux qui n'ont point encore examiné la cause. Il paraît étonnant à tout le monde qu'une quantité ne puisse être mesurée, même par une mesure très petite. Or, ce qu'il nous faut, c'est l'étonnement contraire. Le mieux est à la fin, comme dit le proverbe. Ce mieux, dans les objets dont il s'agit, on y arrive par la connaissance. Car rien ne causerait plus d'étonnement à un géomètre que si le rapport de la diagonale au côté du carré devenait commensurable. Nous avons dit quelle est la nature de la science que nous cherchons, et le but de notre étude est de tout se traiter.